Et pendant ce temps, Bramanti continuait. « Mystique les gars de Carnac, mystique les gars de Bavière, mystique les gars des Barbelognostiques, mystique les gars de Camelot, mystique les gars de Montségur, mystique les gars de l'imam caché, suprême patriarche de Tomar, suprême patriarche de Kelwining, suprême patriarche de Saint-Martin-des-Champs, suprême patriarche de Marienbad, suprême patriarche de Locrana Invisible, suprême patriarche in partibus de la forteresse d'Alamout. » Et le patriarche de Locrana Invisible était certainement Salon. Toujours gris de visage, mais sans sa houppelande de travail et resplendissant maintenant d'une tunique jaune bordée de rouge. Pierre le suivait, psychopompe de l'église luciférienne, qui cependant portait sur sa poitrine, au lieu de la toison d'or, un poignard dans un fourreau doré. Et, pendant ce temps, Bramanti continuait. « Sublime hiérogramme des noces chimiques, sublime psychopompe rhodostorotique, sublime référendaire des arcanes, sublime stéganographe de la menace hiéroglyphica, sublime connecteur astral Oustriusque Cosmi, sublime gardien du tombeau de Rosenkreutz, impondérable archonte des courants, impondérable archonte de la terre creuse, impondérable archonte du pôle mystique, impondérable archonte des labyrinthes, impondérable archonte du pendule des pendules. » Bramanti fit une pause, et il me sembla qu'il prononçait la dernière formule à contre-cœur. « Et l'impondérable d'entre les impondérables archontes, le servant des servants, très humble secrétaire de l'Oedipe égyptien, messager infime des seigneurs du monde et portier d'Agartha, ultime turiféraire du pendule, Claude Louis, comte de Saint-Germain, prince Rakowski, comte de Saint-Martin et marquis d'Aglier, seigneur de Surmont, marquis de Veldon, marquis de Montferrat, d'Aymar et de Belmar, comte Soltikoff, chevalier Schöning, comte de Zarogui. » Pendant que les autres se disposaient dans le promenoir, faisant face aux pendules et aux fidèles de la nef, Aglier entrait, en costume trois pièces bleues à finerets blanches, le visage pâle et contracté, conduisant par la main comme s'il accompagnait une âme sur le sentier de l'Hadès, pâle elle aussi, et comme stupéfié par une drogue, uniquement vêtu d'une tunique blanche et presque transparente, Lorenza Pellegrini, les cheveux dénoués sur les épaules. Je la vis de profil tandis qu'elle passait, pure et languide, ainsi qu'une adultère pré-raphaélite, trop diaphane pour ne pas stimuler une fois encore mon désir. Aglier amena Lorenza à côté du brasero, près de la statue de Pascal. Il fit une caresse sur son visage absent et un signe au géant d'Avalon, qui l'encadrèrent en la soutenant. Puis il alla s'asseoir à la table face aux fidèles, et je pouvais parfaitement le voir alors qu'il tirait sa tabatière de son gilet et la caressait en silence avant de parler.
« Frère chevalier, vous êtes là parce que ces jours-ci les mystiques légats vous ont informé, et donc vous savez désormais tous pour quelles raisons nous nous réunissons. Nous aurions dû nous réunir la nuit du 23 juin 1945, et sans doute certains d'entre vous n'étaient alors pas encore nés.
Du moins dans leur forme actuelle, entends-je.
Nous sommes ici parce qu'après 600 années de très douloureuse errance, nous avons trouvé quelqu'un qui sait. Comment il a pu savoir, et savoir plus que nous, c'est là un mystère inquiétant, mais je compte bien que sois présent parmi nous, et tu ne pourrais faire défaut, n'est-ce pas, mon ami déjà trop curieux jadis. Je compte bien que soit présent parmi nous celui qui pourrait nous le confesser. Ardenti. »
Le colonel Ardenti. Certainement lui, corvin comme toujours, encore que vieilli, s'ouvrit un chemin au milieu de l'assistance et il porta ses pas devant ce qui devenait son tribunal, tout en étant tenu à distance par le pendule qui marquait un espace infranchissable.
Depuis le temps que nous ne nous sommes vus, frère, souriait Aglier. Je savais que la nouvelle se diffusant, tu n'aurais pas résisté. Alors, tu sais ce qu'a dit le prisonnier? Il a dit qu'il l'a su par toi. Tu savais donc et tu te taisais.
Comte, dit Ardenti, le prisonnier ment. Cela m'humilie de le dire, mais l'honneur avant tout. L'histoire que je lui ai confiée n'est pas celle dont les mystiques légats m'ont parlé. L'interprétation du message, oui c'est vrai, j'avais mis la main sur un message, je ne vous l'avais pas caché il y a des années à Milan, est différente. Moi je n'aurais pas été en mesure de le lire comme le prisonnier l'a lu, c'est pour cela qu'à l'époque je cherchais de l'aide. Et je dois dire que je n'ai rencontré nul encouragement, mais seulement défiance, défi et menace.
Peut-être voulait-il ajouter autre chose, mais en fixant Aglier, il fixait aussi le pendule,
qui agissait sur lui tel un charme. Hypnotisé, il tomba à genoux et dit seulement
« Pardon, parce que je ne sais pas !»«
Tu es pardonné parce que tu sais que tu ne sais pas, » dit Aglier.
« Va ! Or donc, frère le prisonnier, c'est trop de choses que personne d'entre nous ne savait. Il sait même qui nous sommes, nous, et nous l'avons appris par lui. Il faut procéder en hâte, d'ici peu ce sera l'aube. » Tandis que vous restez ici en méditation, moi à présent je vais me retirer encore une fois avec lui pour lui arracher la révélation.
Pécaïre, monsieur le comte, que non !
Pierre s'était avancé dans l'hémicycle, les pupilles dilatées.
Pendant bien 2 jours, vous avez bavardé avec lui, sans nous prévenir. Et celui-là, il n'a rien vu, il n'a rien dit, il n'a rien entendu, comme les 3 Ouistiti. Que voulez-vous lui demander de mieux cette nuit ? Non, ici devant tout le monde !
« Calmez-vous, mon cher Pierre. J'ai fait conduire ici cette nuit celle que je considère comme la plus exquise incarnation de la Sophia, lien mystique entre le monde de l'erreur et l'Ogdoade supérieur. Ne me demandez pas comment et pourquoi, mais avec cette médiatrice, l'homme parlera.
Dis-le à eux qui tu es, Sophia !»
Et Lorenza, toujours en état somnambulique, presque scandant les mots avec peine,
« Je suis la prostituée. » « Et la sainte ?»«
Elle est bien bonne, celle-là !» rit Pierre. « Nous avons ici la crème de l'initiation et on sonne le rappel des putes. Ne m'escagassez pas les oreilles, l'homme ici est tout de suite, face au pendule !»«
Ne soyons pas puérils, » dit Aglier. « Donnez-moi 1 heure de temps. Pourquoi croyez-vous qu'il parlerait ici devant le pendule ?»«
Il ira parler dans la dissolution, le sacrifice humain !»
cria Pierre à la nef. Et la nef, à plein poumon,
« Le sacrifice humain !»
Salon s'avança.
« Comte, puérilité à part, le frère a raison, nous ne sommes pas des policiers. »«
Ce ne devrait pas être à vous de le dire, » ironisa Aglier.
« Nous ne sommes pas des policiers et nous ne pensons pas qu'il est digne de procéder avec les moyens d'enquête habituels. Mais je ne crois pas non plus que puissent valoir les sacrifices aux forces du sous-sol. Si elles avaient voulu nous donner un signe, elle l'aurait fait depuis longtemps, à part le prisonnier. Quelqu'un d'autre savait, sauf qu'il a disparu.
Eh bien, cette nuit, nous avons la possibilité de confronter le prisonnier avec ceux qui savaient, et... » Il fit un sourire, fixant Aglier de ses yeux mi-clos, sous leurs sourcils hirsutes.
« De les confronter aussi avec nous, ou avec certains d'entre nous. »
« Qu'entendez-vous dire, Salon ? » demanda Aglier d'une voix qui manquait sûrement d'assurance.
« Si monsieur le comte le permet, je voudrais l'expliquer, moi, » dit madame Olcott.
C'était elle, je la reconnaissais d'après l'affiche. Livide, dans une robe olivâtre, les cheveux brillants d'huile ramassée sur la nuque, la voix rauque d'un homme. J'avais eu l'impression, dans la librairie Sloane, de reconnaître ce visage, mais à présent, je me rappelais. C'était la druidesse qui avait presque couru sur nous dans la clairière, en cette nuit lointaine.
« Alex, Denis, amenez ici le prisonnier !»
Elle avait parlé sur un ton impérieux. Le bourdonnement de la nef paraissait lui être favorable, les 2 géants avaient obéi, confiant Lorenza à 2 freaks mignons, et Aglier, les mains crispées sur les bras de la cathèdre, n'avait pas osé s'opposer. Madame Olcott avait fait signe à ses avortons, et entre la statue de Pascal et l'obéissante, avaient été disposés 3 petits fauteuils où elle faisait asseoir maintenant 3 individus. Tous les 3 à la peau sombre, court de stature, nerveux, avec de grands yeux blancs.
« Les triplés Fox, vous les connaissez bien, comte, Théo, Léo, Géo. Installez-vous et préparez-vous !»
À ce moment-là, réapparurent les géants d'Avalon, tenant par les bras Jacopo Belbo, en personne, qui arrivait à grand-peine à leurs épaules. Mon pauvre ami était terreux, avec une barbe de plusieurs jours. Il avait les mains liées dans le dos et une chemise ouverte sur la poitrine. En entrant dans cette lisse enfumée, il battit les paupières. Il ne parut pas s'étonner de l'assemblée des hiérophantes qu'il voyait devant lui. Ces derniers jours, il devait s'être fait à s'attendre à tout. Il ne s'attendait cependant pas à voir le pendule, pas dans cette position. Mais les géants le traînèrent devant la cathèdre d'Aglier. Du pendule, il n'entendait plus désormais que le très léger bruissement qu'il faisait en lui effleurant les épaules. Un seul instant, il se retourna et il vit Lorenza. Il s'émut, fut sur le point de l'appeler, tenta de se dégager, mais Lorenza, qui pourtant le fixait, atone, parut ne pas le reconnaître.